Y a-t-il des questions claires?
J'ai une petite question concernant GS10.
Oui.
Que vous évoquiez.
Alors, GS10, on a, c'est un peu comme. Mais je reviendrai effectivement sûrement. Au fur et à mesure du conseil.
Parce que juste pour finir, donc, c'est juste, voilà, peut-être ça peut être un enseignement pour sortir de, voilà, des engagements avec eux.
Là, je dirais effectivement, il y a dissociation complète de l'action de cette même société dans les deux marchés. Donc, j'ai pas ce même problème-là aujourd'hui, parce que là, on a un maître d'œuvre qui réellement, effectivement, regarde ce qui se pose ou ce qui va se poser. Donc là, j'ai pas cette difficulté-là, et Obelec n'avait pas intérêt à lier les deux. C'est-à-dire, je continue le GS10 que si vous réglez mon problème de contentieux. Sinon, on n'aurait même pas démarré le GS10. Donc, il y a dissociation entre les deux. En tout cas, là, il y a une vraie maîtrise d'œuvre qui regarde attentivement le dossier Obelec sur le GS10. Donc, on n'a pas ces difficultés-là, en tout cas. Madame Brunel.
Oui, merci. Deux ou trois remarques. C'est un dossier, effectivement, qu'on a pris en main dès fin 2014-2015. Et à l'époque, déjà, ils étaient sortis du GS10. Mais je me souviens de conversations assez dures avec le président de Belec.
Ils ne sont pas sortis du GS10, hein.
Non, enfin, je veux dire, ils ne sont pas... on ne paye pas et on ne paye pas cette affaire du GS10, voilà. Mais il y avait un débat avec Belec sur la qualité du matériel, et la société Obelec, le président qui est venu plusieurs fois dans cette mairie, et je suppose que vous l'avez reçu après, disait, le matériel qu'on a acheté, il a été imposé par le maire ancien, enfin, par l'ancien maire, voilà, et donc un matériel défectueux. Alors je ne sais pas si vous avez réussi à ce qu'il change son matériel, et à l'époque, oui, ce que vous avez dit, et à l'époque, la maintenance était prévue, puisqu'ils occupaient même un étage, et M. Boutillier s'en souvient, un étage entier, gratuitement, soi-disant, c'est-à-dire qu'ils avaient tout installé leur truc dans les services techniques dans la zone industrielle, au nom de la maintenance qui avait été faite. Alors déjà, on avait commencé à les sortir, ça avait été un travail qui avait été fait à l'époque, je crois que c'est M. Boutillier qui s'occupait effectivement de ça, on les avait sortis, j'y avais été plusieurs fois, et c'est bien de trouver un accord, mais je dis, c'était un dossier compliqué, comme vous l'avez dit, qui a été verrouillé par M. Rondeau, il faut le dire, et qui coûte cher, et qui coûte cher effectivement à la collectivité. Moi, je vois ça bien, je pense quand même qu'il faudrait qu'il y ait une réflexion aussi sur les économies d'énergie. Oui. Voilà, sur l'économie d'énergie, parce que je pense que c'est un vrai sujet.
Mais l'avantage, effectivement, que l'on a là, et on aura une délibération tout à l'heure, notamment sur les groupements d'achat sur l'électricité, le fait d'utiliser des LED, effectivement, entraîne déjà des économies, mais encore faut-il que ce soit le matériel conforme au marché, ce qui
alors,
n'était pas le cas.
Alors, ils viennent d'où, les LED, maintenant?
Et je termine. Et aujourd'hui, ils sont produits aux normes françaises, ils viennent de France,
voilà,
et ils sont produits là-dessus. Donc, aujourd'hui, tout le matériel défectueux, parce qu'on ne va pas changer tous les luminaires d'un coup, parce que ça coûterait extrêmement cher, donc tous les luminaires défectueux sont remplacés systématiquement par du produit aux normes. L'audit qui a été lancé, je dirais, l'année dernière, a bien mis en exergue, et je pense que c'est ça aussi qui a fait avancer la discussion et le protocole d'accord, c'est que là, clairement, on a une entreprise qui est venue auditer et qui a confirmé, l'absence de maintenance qui, pourtant, était intégrée dans le marché. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a eu des problèmes, nous ne pouvions pas intervenir. Donc, tant qu'on n'a pas trouvé un accord. Aujourd'hui, c'est le cas. Et leur présence, à titre gratuit, dans les locaux de la mairie, a été réglée, effectivement, en temps et en heure. Tout cela était purement, je dirais, un jeu de dupes. Donc ça a été, effectivement, réglé. Aujourd'hui, clairement, les équipements seront modifiés. Obelec va changer tous les matériels défectueux d'ici le 28 novembre au plus tard. Donc on y veillera et en tout cas on sera présent avec les services techniques pour pouvoir effectivement les suivre. Voilà, donc je pense qu'on arrive à un bon accord qui nous permet de maintenir un équilibre à la fois effectivement sur le marché en tant que tel et puis sur les finances de la collectivité également. Y a-t-il d'autres questions? On peut passer au vote. Contre? Abstention? Merci beaucoup. Alors, contrat de délégation, rapport d'activité, Brigitte.
Non, c'est pas le rapport d'activité, c'est le...
C'est l'avenant numéro 4, pardon.
Non, voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, nous avons une convention de délégation de services publics avec la société Elior, enfin exactement LRS Elior, qui gère l'ensemble de la restauration municipale. Nous leur avions, il y a un an et demi, nous avions convenu qu'ils occupaient un bureau au sein du K2, pratiquement en face du scolaire, de 15 mètres carrés, avec évidemment associé les prix, les charges, etc. Et il se trouve que ce bureau a été inondé par un voisin au niveau au-dessus. Donc, ils ont été délocalisés dans un autre local, toujours au K2, qui était disponible, mais ce local est plus grand puisqu'il fait 23,50. Donc, finalement, ils ont gagné un petit peu de place au passage. Donc, la mise à disposition du local fait l'objet donc d'un loyer annuel qui a été revalorisé en fonction des mètres carrés, d'un dépôt de garantie, d'un montant annuel de charge et d'une participation pour service. Donc les parties se sont rapprochées, se sont mis d'accord et nous vous demandons donc d'approuver ce nouvel avenant à la DSP Lyon.
Pas d'enjeu si ce n'est effectivement le maintien de la présence des Lyors, cette fois-ci effectivement aux normes, c'est-à-dire c'est pas gratuit, mais c'est payant normalement effectivement. Non, mais c'est pour par rapport à l'autre dossier précédent, effectivement, une société privée occupait des locaux à titre gratuit, là c'est pas le cas. Donc voilà, donc c'est simplement une mutation de bureau. Y a-t-il des questions? Non? Contre? Abstention? Merci beaucoup. Alors, nous avons une convention unique annuelle sur les missions optionnelles du centre de gestion. Donc le centre de gestion, c'est pour la collectivité de Bussy-Saint-Georges et beaucoup de collectivités en France, un lieu de conseil, d'accueil, de mission d'ailleurs effectivement que la collectivité peut déléguer au centre de gestion. Donc nous avons décidé de renouveler cette convention annuelle sur des missions optionnelles, puisqu'il y a des missions, je dirais, qui relèvent directement et obligatoirement dans le statut du centre de gestion et d'autres qui sont optionnelles, archives, hygiène, sécurité, expertise statutaire, accompagnement du handicap. Donc nous renouvelons cette convention qui a été déjà signée depuis de nombreuses années et qui nous permet, selon un tarif horaire, de pouvoir tirer sur une mission du centre de gestion. C'est pour la gestion du personnel, c'est les ressources humaines. Donc rien de plus classique. Y a-t-il des questions sur ce sujet-là? Contre? Abstention? Merci beaucoup. Modification du tableau des effectifs. Donc, comme on s'y était engagé, nous pouvons d'ores et déjà, effectivement, à chaque conseil municipal, si c'est nécessaire, de mettre à jour ce tableau des effectifs en fonction de l'organisation de la collectivité. Donc, sur cette délibération, nous vous proposons la suppression de 3 postes, un poste de directeur des services techniques, un poste de DGA, et la suppression d'un poste de rédacteur principal de première classe, avec la création d'un poste de rédacteur principal de deuxième classe, qui permet effectivement de switcher l'agent sur le nouveau grade. Voilà, Madame Brunel.
Oui, monsieur, je voterai contre cette délibération, parce qu'à chaque conseil municipal, on nous présente des créations de postes, des suppressions de postes répétées, et je crois qu'elles sont la marque d'une gestion brouillonne des collaborateurs de la mairie. On recrute, c'est vrai, je le maintiens, on recrute, on décharge de fonctions, on recrute, on s'en va, et donc je voterai contre cette délibération.
Mais vous avez tous les droits. Madame Brunel, vous savez qu'il y a une obligation statutaire de mettre à jour le tableau des effectifs. Donc je sais qu'effectivement ça vous intéresse moyennement, mais quand il y a des suppressions de postes officielles, nous devons supprimer les grades au tableau des effectifs. Je pense que interroger les organisations syndicales, elles vous diront exactement la même chose. Et pour preuve, tout ceci passe en comité technique. Et le comité technique de Bussy-Saint-Georges, composé d'élus et d'organisations syndicales, l'a validé à l'unanimité. Donc la gestion brouillonne, les machins, etc., c'est pas la peine de créer un doute là où il n'y en a pas. On a des postes, effectivement, qui aujourd'hui ne sont plus nécessaires pour la collectivité. On a des agents qui progressent de grade. Il n'y a plus de nécessité de garder l'ancien grade. Donc, il n'y a rien de plus naturel que là-dessus. Quant aux organisations que nous mettons en place, elles sont aujourd'hui, cette organisation, elle est logique. Elle correspond à l'évolution de la collectivité. Et aujourd'hui, si la suppression d'un poste de DGA et de DSC, c'est que la collectivité estime, au vu des compétences internes qu'elle a, que ces postes-là ne sont pas nécessaires. Donc, les décharges de fonctions, je m'en suis déjà exprimé, puisqu'on donne une information à la collectivité, donc je ne vais pas revenir, je dirais, là-dessus. Ça n'engage que le maire, qui est le seul responsable des ressources humaines dans sa collectivité. Et je pense que là-dessus, Madame Brunel, je n'ai pas de leçon à recevoir sur la gestion du personnel. Point.
Je vous donne pas d'ordre. Je fais une constatation. Oui, oui, et j'ai le droit de faire une constatation.
Vous avez tous les droits.
Mais... voilà, des collaborateurs.
J'ai tout à fait le droit de vous y répondre. Donc voilà, donc j'y réponds. Madame Cordotil et Madame Travers.
Oui, moi simplement, je voudrais comprendre quand vous dites suppression de poste.
Oui.
Actuellement, est-ce que nous avons encore un directeur des services techniques? Est-ce que nous avons encore un directeur général des services adjoints? Est-ce que donc ce sont des postes qui n'existent plus physiquement?
Ce sont des postes qui n'existent plus et les agents concernés, DGA n'est plus là et DST est reclassé.
Et qui dirige les services techniques?
C'est un DGA qui est aujourd'hui effectivement, qui est DGA en ressources, qui a en partie effectivement les services techniques.
D'accord, c'est un redéploiement.
C'est un redéploiement
qui n'a pas été remplacé.
Et c'est une redistribution effectivement des rôles sur les DGA existants.
Et le rédacteur principal de première classe est remplacé par un deuxième classe?
Non, c'est un agent qui franchit un grade. Et donc son grade précédent est supprimé.
D'accord. Oui.
Donc vous faites une évolution de grade, vous passez de rédacteur principal deuxième classe à première classe à deuxième classe.
Okay.
Et bien on supprime effectivement le précédent. Ce que la loi nous demande de faire, tout simplement.
D'accord, merci.
Madame Travers.
Oui, suite à ces évolutions, nous souhaiterions que vous puissiez fournissiez aux élus d'opposition un organigramme à jour des services, pour avoir une vision. Merci.
Très bien. D'autres questions? Contre. Abstention. Abstention. Adopté. Indemnité horaire pour travaux supplémentaires. Monsieur Loïc Masson.
Merci Monsieur le Maire. Bonsoir à tous et à tous. Alors je voudrais rappeler le contexte dans lequel on passe cette délibération. Plan Vigipirate et alerte attentat oblige. Les policiers municipaux donc sécurisent les événements organisés par la ville. Je prends l'un des derniers en date, c'est celui du forum des associations donc ce mois-ci. Et pour ce faire, étant donné que les policiers sont extrêmement sollicités, que ce soit sur le culturel ou sur d'autres événements, il est demandé donc le vote de cette délibération pour augmenter les heures supplémentaires au-delà du 25 heures prévues par agent et par mois. En cas de circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée sur décision motivée du maire qui en informe le comité technique. Pour certaines fonctions listées par délibération de l'Assemblée délibérante et après consultation du comité technique, en particulier les agents de police municipale. Donc je précise bien, c'est pour des circonstances exceptionnelles. Ces heures supplémentaires donc font l'objet d'une compensation, donc ça sera rémunéré. Et comme on voit l'article 6, ça apparaîtra au chapitre 12. Donc ce point a été abordé et validé au comité technique hier.
Effectivement, c'est un point qui a été adopté, qui a fait forcément l'objet de débat, puisque là on est sur des domaines forts de la sécurité et de la sûreté, je dirais, des biens et des personnes. Donc à la fois sur ce que disait Loïc, sur un transfert effectif des fonctions de police, de plus en plus de la police nationale à la police municipale. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut constater tous les jours, et je crois bien qu'il y a un rapport qui est en cours de validation à l'Assemblée nationale, présenté par notre député, sur les missions de police municipale et de transfert du régalien aux polices municipales. Donc ça, c'est un des premiers points. Et puis, nous avons dans la collectivité un certain nombre de manifestations, de cérémonies et autres qui nécessitent systématiquement la présence des forces de sécurité, de la police municipale. On a quelquefois aussi du renfort de la police nationale, mais c'est de plus en plus rare. Et donc, aujourd'hui, comme ce sont des activités fluctuante et exceptionnelle, il n'est pas question de recruter des postes supplémentaires de l'APM. Donc, on a une seule variable d'ajustement, qui sont les heures supplémentaires encadrées sur la base du volontariat. Et donc, les cycles de fonctionnement des agents de police, à partir du moment où ils dépasseront les 25 heures supplémentaires, seront modifiés pour qu'il y ait constamment ce processus de validation, à la fois effectivement sur les temps de travail et sur les temps de repos. Donc voilà, donc ça, c'est un ajustement que le chef de la police fera systématiquement en fonction de cela. Et je termine juste là-dessus pour préciser que pour éviter, je dirais, autant que faire se peut ce genre de situation, eh bien, l'ensemble des manifestations, l'ensemble des événements, qui soient culturels, sportifs ou événementiels, seront prévus avec le chef de police municipal et les élus concernés au moins un an à l'avance. Donc comme ça devrait éviter d'avoir à recourir systématiquement aux heures supplémentaires. Madame Brunel.
Oui, merci Monsieur le maire. Je suis favorable au paiement de toutes les heures supplémentaires qui ont été faites dans un délai, effectivement, dans une limite de 25 heures mensuelles. Je le dis, j'ai un doute sur la légalité de cette délibération. Je suis désolé, je peux m'exprimer, je dis qu'il y a un doute sur la légalité de cette délibération. D'abord, est-ce que ces heures supplémentaires ont été effectuées au-delà des 25 heures, avant le 28 septembre? Par ailleurs, j'ai lu le décret numéro 2002-60 du 14 janvier 2002, qui dit bien que des dérogations peuvent intervenir dans une période limitée, et là on n'a pas de limite, et dans des circonstances exceptionnelles qui le justifient. Alors je me suis quand même renseigné. Or, un forum des associations, des événements culturels et sportifs ne sont pas des circonstances exceptionnelles. Ce qu'on entend dans ce décret, c'est une émeute, un incendie grave, quelque chose qui n'arrive qu'une fois. Donc je dis qu'il y a, à mon avis, si la préfecture regarde, si le contrôle de légalité regarde, et deuxièmement, j'aurais posé une question, est-ce que ces heures supplémentaires en dehors des 25 heures mensuelles ont été faites avant aujourd'hui?
Alors, deux réponses effectivement à cela. Bien évidemment, toutes les délibérations du conseil municipal de Bussy-Saint-Georges, et vous savez qu'on est depuis des années en observation, sont ciblées par le contrôle de l'égalité.
Donc, mais celle-là n'est pas encore passée, elle passera après le conseil, quand vous aurez signé le conseil municipal.
Évidemment, madame, voilà. Il ne va pas y avoir de contrôle préalable. Je pense que l'État, nous sommes dans un état droit, l'État ne contrôle pas avant qu'on ait décidé. Ça c'est clair. Ça, c'est le premier point. Donc, vous inquiétez pas, de toute manière, ce sera contrôlé. Bien évidemment, nous sommes renseignés sur cette possibilité-là. Et donc, il y a deux circonstances qui permettent effectivement de recourir à des heures supplémentaires au-delà de 25 heures. Elles sont d'ailleurs précisées dans la note, elles sont précisées dans la délibération. En cas de circonstances exceptionnelles et dans certaines fonctions listées par délibération à l'Assemblée délibérante. Ce qui est le cas aujourd'hui puisque je circoncis cette décision à la police municipale. Mais si. Lisez bien.
Lisez bien.
Sur la police municipale. Ça veut dire que je ne prends pas une délibération générale sur un dépassement d'heure, je le prends sur une catégorie d'agents spécifiques qui sont liés à la sécurité des biens et des personnes. Donc, ces deux facteurs, effectivement, étant liés. Troisième facteur, effectivement, sur les circonstances exceptionnelles, ça se frappe bien évidemment sur l'aspect volontaire des agents. Et je vous rappelle que depuis 2014, les heures supplémentaires dans la collectivité, que ce soit la police municipale ou l'ensemble des autres services, respectent le principe fondamental de commande de l'heure supplémentaire et contrôle de l'heure effectuée. Donc ça, c'est aussi les circonstances budgétaires du paiement des heures supplémentaires. Les circonstances juridiques, effectivement, sont liées à ce que je viens de dire, effectivement, les circonstances exceptionnelles et les fonctions listées par délibération. Cette délibération n'existant pas, elle passe aujourd'hui au conseil municipal, elle est passée au comité technique qui l'a approuvée, et quand il y aura des circonstances exceptionnelles de type feu et autres, mais comme notre police fonctionne 24 heures sur 24, même quand il y a un feu, et qu'il y a, je dirais, une brigade qui intervient, s'il faut rappeler du renfort sur la brigade, c'est cela qui va déclencher des heures supplémentaires au-delà des 25 quand les agents les ont déjà réalisées. Donc c'est de ça dont on parle. C'est pas de dire effectivement, systématiquement, on aura 10 heures de plus à effectuer par agent. Non, ça se fera dans des circonstances particulières et avec une détermination réelle des agents qui sont amenés à faire plus de 25 heures. C'est exclusivement la police municipale. Et pourquoi je fais ça? C'est que si je fais du repos compensateur pour des policiers qui sont déjà effectivement en tension sur leurs horaires, je vais recréer un besoin qui va me rejustifier des heures supplémentaires. Donc il y a certains services techniques événementiels où la rotation avec le repos compensateur peut s'organiser. Sur une police municipale 24-24, 7 jours sur 7, ce n'est pas possible. Donc le seul moyen, effectivement, c'est bien de recourir aux heures supplémentaires au-delà. Et je ne vais pas créer des postes qui correspondent à des mesures exceptionnelles. Parce que à ce moment-là, je recrute deux policiers supplémentaires et ça me règle le problème. Non, c'est pas comme ça, effectivement, qu'on raisonne en matière budgétaire. Monsieur Madame Brunel.
Oui, excusez-moi, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que ces heures supplémentaires au-delà des 25 heures ont déjà, mensuelles ont déjà été effectuées.
Non, elles partiront à partir de la délibération prise ce soir.
Vous le répétez ?
Oui.
Elles repartent, d'accord.
Oui. Ah oui.
Je pense, bon d'accord, très bien. Donc vous dites que, vous dites bien qu'au mois de juillet, qu'au mois d'août, il n'y a pas eu d'heures supplémentaires faites de la police municipale, faites au-delà des 25 heures mensuelles.
Il y a eu des heures supplémentaires au-delà des 25 heures mensuelles qui feront l'objet d'un repos compensateur et non pas d'un paiement.
Et une précision, Monsieur le maire, je répète ce que j'ai dit, mais Mme Brunel ne l'a pas entendu, donc le plafond des 25 heures peut être dépassé. Alors, mais je répète parce que
vous posez la question,
mais vous ne l'avez pas entendu, donc je le répète. Le plafond des 25 heures peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée sur décision motivée du maire qui en informe le CT. Pour certaines fonctions listées par délibération de l'Assemblée délibérante, après consultation du comité technique, en particulier les agents de police municipale. Une petite précision. Le dépassement du plafond des 25 heures fera l'objet d'une information au comité technique à l'occasion de chaque dépassement dans la limite de 36 heures mensuelles par agent dans le respect de la réglementation en vigueur.
Donc en juillet et août, il n'y a pas d'heures supplémentaires au-delà des 25 heures supplémentaires mensuelles. On a entendu, et ben on verra.
Monsieur Canal.
Oui, je voulais, pour être un peu plus précis et concret, savoir si le volume des heures supplémentaires dont on parle, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il représente en volume, c'est-à-dire en nombre d'heures, et éventuellement en coût. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, il y a une situation qui a fait qu'on a eu recours de façon plus intense que par le passé au service de la police municipale sur un certain nombre d'événements. Et donc, on a accumulé, je suppose, un certain nombre d'heures dites supplémentaires, dont aujourd'hui, dans le souci d'une bonne gestion, effectivement, on envisage de prioriser leur indemnisation sous forme de repos compensateur plutôt que sous forme d'espèces sonnantes et trébuchantes, c'est-à-dire d'indemnité. Maintenant,
ce sont les deux.
Il y a des limites physiques, comme vous vous en doutez, en fonction de ce dont on parle. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans une situation comme on est au niveau de, par exemple, la santé, au niveau de l'État ou des hôpitaux, avoir accumulé une telle masse d'heures supplémentaires éventuellement non encore payées ou non encore compensées, qui poserait un problème budgétaire parce que les limites physiques de la récupération ne permettront pas de récupérer cette masse et qu'inéluctablement, il y aura un paiement à faire et qui outrepassera peut-être des enveloppes budgétaires sur lesquelles on s'est prononcé dans le cadre de la gestion de l'adoption du budget. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est aujourd'hui ce volume d'heures en nombre d'heures, nombre d'agents et en coûts?
Alors, justement, parce qu'effectivement, c'est le caractère exceptionnel de la chose, nous avons estimé le volume, je dirais global, d'augmentation de la charge sur les heures supplémentaires à 148 000 euros par an.
En additionnel.
En additionnel, exactement.
Mais pour le passé, pour celles qui
ont... Et pour le passé, comme je vous l'ai dit, effectivement, le passé, ce n'est pas payé puisque la délibération n'est pas encore effective. Donc au-delà des 25 heures, pour l'instant, les agents ne sont pas payés, ils sont en repos compensateur. D'où les difficultés que l'on peut avoir sur certaines manifestations où les agents sont en repos. Et c'est ça qui nous pose aujourd'hui un double problème. Donc une multiplication des activités sur la collectivité, et je pense qu'on peut tous s'en réjouir, et de l'autre côté, les obligations de sécurité qui s'imposent à nous et qui nécessitent une présence policière supplémentaire. Aujourd'hui, on va négocier, on va commencer à discuter avec les associations, notamment sur les services de sécurité, en aide aux brigades. Donc les brigades tourneront et ne feront pas forcément la totalité des épreuves, des actions de sécurité, notamment sur les fouilles de sacs. Dans beaucoup de collectivités, les associations avec des brassards de sécurité font aussi cela. Donc c'est tous ces éléments-là, effectivement, qui sont nécessaires. Par contre, il y a des manifestations, notamment sur l'espace public, qui nécessitent clairement la présence de policiers. C'est ça dont on parle. Le reste, on le fera avec les associations.
Ou celle organisée par la ville.
Ou celle organisée par la ville, ou par l'agglo aussi. Hein. On a aussi beaucoup d'activités organisées par Marne-et-Gondoire sur notre territoire. Eh bien, il faudra qu'à ce moment-là, Marne-et-Gondoire participe aussi aux frais de sécurité. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Madame Cordotine.
Oui. Donc ces 148 000 euros n'ont pas été prévus lors du budget.
Si, ces 148 000 euros aujourd'hui, ils sont dans la masse salariale.
Dans la masse salariale. Oui. Et vous pouvez les, on peut les retrouver, ils sont on peut les dissocier de la masse salariale.
Non, vous l'avez en masse. C'est-à-dire que vous avez la masse effectivement des heures supplémentaires et des traitements, bien évidemment.
D'accord, donc ça ne viendra pas en plus.
Non, ça ne viendra
pas. Ça n'alourdira pas la masse salariale.
Absolument.
D'accord.
Absolument.
Et j'ai une autre question concernant les missions de la police municipale, oui. Puisque vous dites que, effectivement, très justement, la police nationale se décharge de beaucoup de plus en plus de missions. Donc, est-ce que les policiers municipaux maintenant qui vont pouvoir être armés, ils le sont déjà plus ou moins, je pense.
Non, ils le sont tous aujourd'hui.
D'accord.
Ils le sont tous et avec un matériel aujourd'hui qui nous coûte moins cher, qui est plus efficace.
Tout à fait, mais ce que je trouve alors assez curieux, c'est qu'effectivement, donc on a la possibilité de faire armer les polices municipales,
oui.
Mais pour l'instant, ils ne peuvent toujours pas demander une carte d'identité à quelqu'un qu'ils arrêtent sur le. Qu'ils voient en. Donc c'est quand même le gros. C'est pas. C'est vraiment un gros souci parce que c'est un peu contradictoire.
Non, mais là-dessus, vous avez raison, mais. Il y a deux choses. Aujourd'hui,
vraiment efficace.
La sécurité des biens et des personnes autorise les policiers municipaux à interpeller des personnes dangereuses pour eux-mêmes ou pour les autres. On a des immobilisations de personnes sur la voirie et on le fait de façon normale et naturelle. Après, les contrôles d'identité et l'investigation, c'est exactement ce que le rapport de loi prévoit aujourd'hui, outre l'obligation d'armement des policiers municipaux. À Bussy, ils le sont tous, les nouvelles armes sont arrivées et nous permettent effectivement d'avoir tous les équipements de sécurité possibles, je dirais, dédiés à la police municipale et l'évolution des missions que l'État va nous donner dans quelques mois, dans quelques semaines, sont déjà aujourd'hui en préparation dans la ville de Bussy. On est déjà prêt à les recevoir parce qu'on a une police municipale largement dotée, largement équipée, et largement équipée aussi en nombre de personnes.
Une précision, monsieur le maire. Donc c'est le code de procédure pénale qui prévoit la réglementation donc pour les policiers donc nationaux et municipaux dans pour ce qui concerne les contrôles. Donc là, c'est pas à notre niveau, malheureusement, pour l'instant, pour changer donc la loi. Concernant l'armement, ils sont tous équipés de revolvers, Martine. Oui. Et les Glock, les automatiques sont arrivés hier, et donc les agents vont être formés ce mois-ci et vont pouvoir porter à l'issue de leur formation s'il réussit, donc leurs nouvelles armes, donc une arme automatique, voilà. Le Glock 17.
Et je rappelle que ces armes coûtent trois fois moins cher que ceux qui ont été achetés précédemment et qui ne sont quasiment pas utilisables. Bref, c'est aussi effectivement une petite économie, mais non négligeable, je dirais, dans le budget. Très bien. D'autres questions sur ce sujet? Monsieur, madame, voilà. C'est bon, même sans micro, on vous entend. Y a-t-il d'autres questions? Contre? Madame Brunel. Abstention. Adopté. Alors, règlement d'utilisation des véhicules de la ville. Autre sujet, monsieur Nouguerol.
Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. La note, comme d'habitude, est assez précise. Cruellement, depuis déjà plusieurs années, il n'y avait pas de règlement concernant l'utilisation des véhicules. Donc, bien entendu, dans le souci de contrôle, d'utilisation, de définir pour les bonnes personnes des bons véhicules et leur utilisation et éventuellement leur remisage à domicile en fonction de leurs contraintes et de leur mission. Il a donc été défini un règlement d'utilisation des véhicules de la ville, tout à fait en conformité avec la délibération de 2013 du conseil municipal qui a approuvé la charte d'utilisation des véhicules de service par les agents communaux. Donc aujourd'hui, ça veut dire que nous allons mettre en place, et ce qui n'existait pas encore une fois depuis un certain nombre d'années, les carnets de bord, des évaluations de kilométrage pour chaque mission. Dès que le fonctionnaire prendra un véhicule et le retournera là où il l'a pris, dans le cadre de sa mission, les kilomètres seront, comme dans toute organisation bien organisée, seront consignées. Et bien sûr, les cartes à essence suivront. Comme ça, nous pourrons avoir une traçabilité des consommations pour chacun des véhicules. Voilà, monsieur le maire.
Très bien, ça permet de remettre un petit peu d'ordre dans ce qui ne l'était pas.
Et pour terminer, oui, ça a donc été approuvé au comité technique du 13.
Et d'ailleurs, c'était très largement demandé par les organisations syndicales, et donc on a fait ce travail-là en amont avec eux pour aboutir déjà à la redistribution des véhicules, parce que c'était aussi un petit peu n'importe quoi, et un fonctionnement par poule de véhicules. Donc ces poules de véhicules fonctionnent aujourd'hui et permettent de rationaliser. Et je pense que là-dessus, on aura de bonnes surprises budgétaires également, notamment sur la consommation d'essence. Y a-t-il des questions? Contre? Abstention? Merci beaucoup. Alors, rapport de présentation des représentants de la ville sur notre fameuse SEM solaire. Monsieur le Président? Je sens que tu y prends un grand plaisir.
La SEM solaire, la secte du temple solaire est pas loin.
Bonsoir. Bon, SEM solaire qui est dormante, hein. Monsieur Canal doit bien connaître la chose puisqu'il l'a gérée juste avant moi. Simplement, si vous avez lu le bilan des frais d'avocat, puisqu'on continue les procédures, ce qu'on vous avait dit il y a quelques temps, on ne les arrête pas. Hein. Le commissaire aux comptes et le comptable, exclusivement. Ensuite, je vous passe les enregistrements au greffe, etc., etc., enfin, tout ce qui est légal. Voilà. Oui.
Oui, juste une demande d'information. Dans les comptes que j'ai lus, il y a une reprise de provision cette année de 48 492 euros. Je voulais juste demander pourquoi cette reprise de provision et sur quoi elle s'appuie. Voilà, c'est juste une demande d'information.
Très bonne question.
Parce que c'est effectivement, c'est frappant de voir.
Oui, tout à fait.
Dire, c'est le seul chiffre qui est intéressant dans ces papiers.
C'est un des procès que nous avons perdu.
Ah bon?
Sur la SEM, qui avait été provisionné et non annulé.
D'accord, ok.
Voilà.
D'accord, merci pour l'information.
Oui, alors j'avais un certain nombre de questions sur les comptes. Effectivement, d'après les chiffres que j'avais laissés, au moment où j'ai été démis de mes fonctions, oui, les honoraires du commissaire aux comptes étaient fixés, suite à un accord spécial compte tenu du peu d'activité de la société, à 3000 euros hors taxe. Les chiffres de l'expert comptable suivant la comptabilité et dressant le bilan et le compte de résultat étaient fixés à 1500 euros hors taxe, ce qui nous amène à 4500 euros, qui sont à comparer aux 8061 euros que l'on trouve sur le compte 622-600 des honoraires, soit une différence de 3561 euros, que je suppose, en fonction de ce que vous avez dit, M. Boutillier, représenter les montants des honoraires d'avocats dont vous avez parlé.
Tout à fait.
Bien. Dans ces conditions, je suis un peu étonné que, comme le règlement du Code général des collectivités locales vous y invite, en demandant aux représentants des collectivités territoriales figurant au sein d'un conseil d'administration d'une société d'économie mixte locale, de donner lecture ou de faire une communication d'un rapport écrit sur les activités ou les comptes de cette société, vous vous borniez à évoquer le fait qu'on dépense de l'argent pour des procédures toujours en cours, mais qu'on n'en sache pas beaucoup plus. Je m'attendais à ce que vous nous donniez des explications sur les procédures concernant directement la SEM solaire d'une part, ou celles concernant la SEM solaire et la ville, qui avait initialement impliqué trois actions en justice, deux actions au pénal et une action pour abus de biens en collaboration avec la ville. Alors, je vous pose la question, où en sont l'affaire de du trop payé, de la restitution de l'indu qui était d'un peu plus de 30 000 euros suite à manifestement des abus dans les dépenses commises par les anciens dirigeants de cette société. où en sont l'action, où en est l'action pour faux en contrat commercial qui avait été diligenté contre les anciens dirigeants, et où en est l'action en abus de biens sociaux qui avait été diligenté par la ville et production conjointe de la SEM par les anciens dirigeants. Je rappelle à cet égard que la question, même si le temps passe, on est vraiment dans le temps long, comme toujours en justice, me direz-vous, mais les électeurs se souviennent que cette société a consommé 1 200 000 euros de fonds publics pour rien.
Mais on s'en souvient tous.
Mais ce ne sont pas les électeurs, là, ce sont les contribuables. Hein.
Donc, oui, mais qui sont, les électeurs sont des contribuables.
On est tous contribuables, on n'est pas forcément tous électeurs.
Voilà, je voudrais en savoir un peu plus. Je trouve que votre explication est un peu courte et j'aimerais avoir un détail sur ces actions qui sont toujours en cours, certes, mais où en sont-elles? Quel est l'espoir que les Buxan-Georgiens puissent avoir un jour, que les responsables de la commission de ces faits pour le moins douteux, soit poursuivi dans leur responsabilité.
On a compris. Alors, Monsieur Canal, alors, première chose, moi je ne suis pas là pour donner de l'espoir ou pas. Ça, c'est la justice qui le dira, c'est pas moi. Deuxième chose, le rapport de gestion que vous évoquiez à moitié, on va être très clair, n'est plus obligatoire depuis le 1er janvier 2018. Ensuite, concernant les trois actions en justice, je vous rappelle que sur des actions en justice, théoriquement, on ne peut pas communiquer sur ce qui se passe exactement. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'elles sont toutes les trois en cours, dont une où on s'est porté partie civile, comme nous l'avions dit. Donc les affaires suivent leur cours.
Deux au pénal, une au civil.
Exactement. Et vous l'avez dit vous-même, la justice est longue. Il faut qu'on attende qu'elle revienne vers nous.
Et si c'est pour rassurer l'ensemble des membres du conseil municipal aujourd'hui et l'ensemble des Buxan-Georgiens, hein, je vois bien en filigrane ce qui va être dit. Non, nous maintenons l'ensemble des actions, nous irons jusqu'au bout des actions et c'est la justice qui tranchera au final s'il y a condamnation ou pas. Donc aujourd'hui, on ne va pas argumenter sur les actions. Vous les connaissez puisqu'effectivement, elles ont été enclenchées à cette époque-là. Elles sont toujours en cours. On a toujours des frais d'avocat. Donc ça, c'est vérifiable. Et donc, nous attendons avec impatience les décisions de justice.
Je vous remercie de ces précisions.
Je vous en prie.
Simplement, rien ne vous empêche de nous dire s'il y a eu des faits nouveaux.
Non, il n'y a pas de faits
nouveaux. Est-ce qu'il y a eu, excusez-moi, est-ce qu'il y a eu des audiences? Quelles ont été l'évolution des dossiers? Est-ce que la partie adverse a fourni des éléments?
C'est le secret de l'instruction, monsieur Canal. Vous savez très bien. Moi, ce que je peux vous dire à titre personnel, j'ai été auditionné. Voilà. Par la police judiciaire.
C'est ça.
C'est tout.
Donc, aujourd'hui, les instances sont toujours en cours. Il n'y a pas de phénomène nouveau, je dirais, dans les plaintes qui ont été portées. Elles sont toujours en cours d'instruction. La preuve, on reçoit le SRPJ assez régulièrement à Vichy-Saint-Georges sur différentes affaires. Hein. On a même ouvert un bureau spécial. Hein. Donc comme ça, ils sont les bienvenus. Ils ont un bureau SRPJ, c'est Marseille ou Paris, je ne sais plus. Peut-être même les deux. Donc en tout cas, effectivement, voilà. Et ils sont très régulièrement sur différentes affaires. Donc voilà, pour l'instant, effectivement, on ne peut pas communiquer parce que nous-mêmes, nous n'en savons pas plus. Je dirais l'instruction est toujours en cours. Et j'espère effectivement qu'on aura à un moment ou un autre une décision maintenant rapide de la justice. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'il n'y a pas de faits nouveaux, de faits générateurs nouveaux qui ont été invoqués par l'une ou l'autre partie.
Bien, j'en prends acte. Ceci étant,
oui.
Je précise aussi pour l'information du public, et puisque nos... Les interventions ne sont pas retranscrites dans le procès-verbal, donc je dirais que ça reste relativement confidentiel, nos débats.
Non, c'est
public. Je précise que chaque année qui passe, et nous maintenons cette société en survie artificielle à cause de ses actions,
oui.
Nous dépensons donc, nous venons de le voir, plus de 8 000 euros en honoraires de comptabilité et frais d'avocat.
Oui.
Mais... Nous pompons sur le compte courant que possède encore la ville dans cette société et qui s'élève, si je ne m'abuse, à 150 000 euros. Nous pompons chaque année 10 000 euros. Donc, si l'affaire dure un certain temps,
oui,
si on attend comme ça dans 10 ans,
Monsieur Canal,
aurons définitivement et perdu 1 200 000 euros et perdu le restant
Monsieur Canal, je ne peux pas dire on attend comme si la ville était responsable de la rapidité ou non de la justice. Donc, tant que la justice sera en cours, nous maintiendrons la société et forcément nous aurons des frais.
Voilà.
Mais ce n'est pas de notre fait à nous,
oui. C'est
le fait de la justice. Donc, si effectivement, je dirais là-dessus, vous n'en êtes pas d'accord, vous écrivez au ministre de la Justice pour lui dire la justice n'est pas assez rapide. Mais on ne va pas dire on, comme si on globalisait de façon subreptice comme ça, et la collectivité et la justice. Non, nous ne faisons pas traîner l'affaire, puisqu'effectivement, à partir du moment où l'affaire est enclenchée, elle nous échappe jusqu'à la décision de justice. Donc, il y aura des frais. Jusqu'à ce que, je dirais, la justice tranche. Donc, ce n'est pas on, c'est la justice. C'est
puis,
pas la vie de
Monsieur
justice.
Canal, il faut être juste, ne serait-ce que vis-à-vis de vous-même. Vous ne pouvez pas nous demander et nous imposer, et vous aviez raison, de continuer la procédure et aujourd'hui nous dire on dépense. Bah oui, on dépense pour les procédures. Maintenant, on peut tout stopper, hein, mais ce n'est pas le choix qu'on a fait.
Non, et ce n'est pas le choix qu'on fera.
Pour gagner 150 000 euros, je ne sais pas si le jeu en... On vous la chandelle.
Madame Brunel.
Oui, non, juste une précision, et je suis quand même un tout petit peu étonné de ce que dit Monsieur Canal. On a toujours dit, et je remercie aussi la majorité de continuer, qu'on maintenait cette société parce qu'il y avait 3 actions en justice. Il y a le problème du four en écriture, enfin, il y a un certain nombre de choses, voilà. Et que, Monsieur Canal, excusez-moi, la justice... ça vaut plus que 8 000 euros par mois, je veux dire. On est sur un honneur, on est sur des principes.
Par an,
8 000 euros. On est sur des principes, et je pense qu'effectivement, les anciens, enfin les Luxembourgeois anciens, connaissent bien cette affaire, et que je trouve, je veux dire, bien que la majorité actuelle maintienne cette société, effectivement, on le sait très bien qu'on la maintient pour les actions en justice, car si elle disparaît, il n'y a plus d'actions en justice.
Donc, elle est maintenue à flot juste pour cette raison-là. Alors, y a-t-il d'autres questions, Madame Travers ?